Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 14 Mordad, 1400 du calendrier iranien, 5 août 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les faux incidents maritimes dans le golfe Persique nuisent à la paix régionale. Les forces étrangères doivent quitter la Syrie au plus vite, a déclaré le nouveau président iranien Ebrahim Raisi. Le commandant de la force aérospatiale promet une riposte ferme à toute agression israélienne contre l'Iran. Et la Russie rejette les allégations sur l'attaque contre le pétrolier israélien au large d'Oman. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président élu iranien Ebrahim Raisi a déclaré que le peuple et le gouvernement syrien ont héroïquement résisté au terrorisme et ont su remporter la victoire. Lors d'une rencontre avec le président du Parlement syrien, Raisi a ajouté que le développement des relations politiques et économiques entre Téhéran et Damas sont dans l'intérêt des deux nations. Concernant la planification de la reconstruction de la Syrie, Ebrahim Raisi a déclaré « Les forces étrangères doivent se retirer du territoire syrien dès que possible afin que cette nation puisse entamer le processus de reconstruction avec vigueur et rapidité. » Un haut commandant militaire iranien a promis une réponse ferme de l'Iran à toute agression d'Israël ou de ses alliés. Le commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Amir Ali Hajizadeh, a affirmé que toute accusation d'Israël ne valait pas la peine d'être répondue compte tenu de la nature oppressive et tyrannique du régime sioniste. Hajizadeh a souligné que la réponse de l'Iran à toute agression serait rapide et appropriée. Il a également évoqué certains des actes terroristes d'Israël dans la région, tels que les assassinats, l'occupation et le meurtre de femmes et d'enfants. La Russie a rejeté les spéculations sur une récente attaque contre un pétrolier géré par Israël au large d'Oman, affirmant qu'il existe de nombreuses informations contradictoires concernant l'incident. Le représentant de la Russie auprès des Nations Unies a déclaré que les détails fournis jusqu'à présent sont basés sur des analyses très hasardeuses. Il a appelé à établir des faits avant de se précipiter vers des conclusions trop hâtives. La représentante adjointe de la République islamique d'Iran, Mme Zahra Ershadi, a également mis en garde contre les tentatives suspectes de créer des incidents maritimes sous faux pavillons. L'Iran a également mis en garde d'une réponse foudroyante face à toute menace contre sa sécurité nationale. Et enfin, les Nations unies sont profondément préoccupées par la sécurité et la protection des dizaines de milliers de personnes à Lashkargah, en Afghanistan, qui pourraient être piégées par de violents combats entre les forces gouvernementales afghanes et les talibans, a déclaré un porte-parole de l'Organisation des Nations unies. Au moins 40 civils ont été tués lors de la bataille de Lashkargah, la capitale de la province de Helmand. Les talibans ont intensifié leurs attaques à travers l'Afghanistan depuis le mois de mai, s'emparant de vastes étendues de zones rurales et urbaines, y compris certains postes frontaliers clés. Ils se concentrent maintenant sur la capture des capitales provinciales. Les talibans se sont également engagés à intensifier les agressions contre les hauts responsables du gouvernement afghan. L'envoyée spéciale iranienne auprès des Nations unies a mis en garde contre les récentes tentatives suspectes de créer des incidents maritimes artificiels dans le golfe Persique et dans la région au sens large, après que les États-Unis et leurs alliés aient accusé l'Iran d'une attaque contre un navire géré par Israël, exhortant mettre fin à ces actes irresponsables qui nuisent à la paix de la région. Dans une lettre adressée mercredi au président du Conseil de sécurité des Nations unies, la représentante permanente adjointe de l'Iran auprès des Nations unies, Mme Zahra Ershadi, a rejeté l'accusation infondée portée par la Grande-Bretagne, le Libéria et la Roumanie selon laquelle l'Iran aurait été à l'origine de l'attaque contre le pétrolier israélien Mercer Street au large des côtes d'Oman, sans présenter la moindre preuve pour étayer leurs affirmations. Cette affirmation non fondée, qui a été soulevée pour la première fois, à des fins politiques évidentes, par le régime israélien immédiatement après l'attaque, est factuellement erronée. Est politiquement et éthiquement irresponsable. Et elle est donc catégoriquement rejetée, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que l'Iran bénéficie de longues côtes et de nombreuses installations portuaires dans la mer Caspienne, le golfe Persique et à la mer d'Oman, ainsi que d'une grande capacité de transport maritime et attache une grande importance à la sécurité maritime et à la liberté de la navigation. Mardi, la Grande-Bretagne, la Roumanie et le Libéria ont déclaré au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies qu'il était très probable que l'Iran ait utilisé un ou plusieurs drones pour mener l'attaque contre un pétrolier battant pavillon libérien qui était géré par Israël la semaine dernière. Madame Ershadi a réitéré le plein engagement de l'Iran envers ses obligations internationales et a déclaré que le pays avait contribué de manière significative à la promotion de la sécurité maritime et de la liberté de navigation. Le déploiement pendant plus d'une décennie des forces navales iraniennes dans l'océan Indien et les zones adjacentes à l'appui des efforts internationaux de lutte contre la piraterie a été reconnu à plusieurs reprises par le secrétaire général des Nations unies dans ses rapports pertinents et salué par le Conseil de sécurité dans ses nombreuses résolutions, a déclaré la diplomate iranienne. Ailleurs, dans sa lettre, Mme Zahra Ershadi a fermement rejeté les allégations similaires et autres sans fondement faites par le régime israélien comme principale source d'instabilité et d'insécurité dans la région et au-delà depuis plus de 7 décennies. Elle a attiré l'attention sur les violations systématiques du droit international par le régime israélien, y compris ses menaces importantes pour la sécurité maritime et la liberté de navigation, ainsi que sur sa longue expérience dans la conduite d'opérations complexes, sous faux pavillons, en haute mer et sur les principales voies navigables internationales. Le Conseil de sécurité doit rester pleinement vigilant sur la sécurité et l'aventurisme militaire de ce régime dans une région aussi volatile que le Moyen-Orient, condamner de tels actes et le tenir responsable de toutes ces activités illégales et pourtant hautement déstabilisatrices, a déclaré Mme Ershadi, soulignant les très récentes déclarations provocatrices des responsables du régime israélien, menaçant d'utiliser la force en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. L'envoyée iranienne a souligné qu'il faut rappeler à Tel Aviv qu'il devrait supporter les conséquences de tous ces aventurismes et erreurs de calcul possibles. Elle a mis en garde contre de telles menaces et a déclaré que l'Iran n'hésitera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger vigoureusement son peuple, défendre sa souveraineté et protéger ses intérêts nationaux.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de débat. La cérémonie de la validation de l'élection présidentielle iranienne a eu lieu hier, mardi, à Téhéran, en présence du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, et Ebrahim Raisi est devenu officiellement le nouveau président iranien. L'Iran est désormais doté d'un nouveau président de la République et bientôt l'Iran sera doté d'un nouveau gouvernement. Et demain, jeudi, il va y avoir la cérémonie d'investiture du nouveau président Ebrahim Raisi, à laquelle vont participer, en jeu par des informations, les délégations de moins 60 de 13 pays du monde. Et quelle est en fait l'importance de cette nouvelle ère qui s'ouvre en République islamique d'Iran, de l'Iran qui dit que voilà, va en fait avoir une présence active tant au niveau régional qu'à l'échelle internationale. Et le nouveau président, lors de la cérémonie de la validation de l'élection présidentielle, dans son discours, a dit que voilà, il va tout faire pour mettre un terme aux sanctions injustes imposées à l'Iran, au peuple iranien. Mais il n'est pas question, ni pour lui, ni pour son gouvernement, de lier la subsistance du peuple iranien, si vous voulez, à l'étranger, au bon vouloir des puissances étrangères. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un spécialiste français des questions internationales, un très bon connaisseur des questions relatives à l'Iran. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Nerosti, merci de vos bonnes paroles. Et bon, naturellement, nous saluons tous vos auditeurs et votre invité.
Merci beaucoup. Et de notre invité de l'émission d'aujourd'hui, M. Dortiguet, de lui aussi, c'est un très bon connaisseur des questions relatives à l'Iran, des questions relatives au Moyen-Orient, un spécialiste des questions internationales. Il s'agit de M. Imadettin Ambrouni. M. Ambrouni, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité, à tous les spectateurs et nos auditeurs. Et félicitations pour le peuple iranien et pour la République islamique d'Iran.
Merci beaucoup, M. Ambrouni. On va commencer avec vous, M. Ambrouni, l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Je viens en fait d'évoquer le sujet en ce qui concerne l'importance de ce nouveau chapitre qui s'ouvre, si vous voulez, dans la politique iranienne, en République islamique d'Iran. Et quelle en est, si vous voulez, l'importance, M. Ambrouni?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est vrai, c'est une nouvelle ère pour la République islamique d'Iran, pour le peuple iranien, l'arrivée de M. Raisi, l'arrivée d'un homme responsable, d'un homme proche du peuple et proche du guide. Il faut rappeler que le peuple iranien, le peuple musulman d'Iran, le peuple révolutionnaire iranien, depuis 42 ans, n'a jamais cessé de donner des sacrifices pour la République islamique d'Iran, pour la révolution islamique iranienne. Et aujourd'hui, ce nouveau gouvernement, ce nouveau président, il doit servir ce peuple iranien qui souffre, entre parenthèses, car la crise sociale est forte, l'inflation est forte, l'attente populaire est très importante. Donc c'est un nouvel ère que l'Iran d'aujourd'hui, à l'intérieur, pour le peuple d'abord, et aussi pour sa diplomatie à l'étranger. Car, voyez-vous, depuis quelques jours maintenant, la pression, elle est très forte contre M. Raisi, contre ce nouveau gouvernement. Les États-Unis, Israël, leurs alliés arabes dans la région font tout pour que ce gouvernement ne prenne pas les bonnes décisions. Et de toute façon, le peuple iranien a dit son mot, et que l'attente, elle est forte, comme je l'ai dit, et que M. Raisi doit servir d'abord le peuple iranien et la révolution islamique iranienne.
Mmh. M. Ambrouni, on va revenir plus tard sur ce, en fait, dernier point que vous venez d'évoquer, comme quoi, en fait, ces derniers jours, il y a eu cette multiplication contre des pressions contre l'Iran et contre le nouveau président iranien. On va revenir plus tard sur ce sujet également. Monsieur Dortiguet, vous avez entendu les explications de Monsieur Ambrouni. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Eh bien, bien sûr, naturellement, cette exposition qui est tout à fait qui est complète, disons, qui montre, le centre de toute de ce qui occupe l'Iran, à savoir de se maintenir, de subsister, de s'affirmer et d'être reconnu, disons, dans ses efforts. Je dois dire que la présence, par exemple, du délégué de l'Union européenne à cette cérémonie de demain est également très significative, en plus, bien sûr, des représentants de chaque pays, car les liens, entre l'Europe, pas seulement comme tel, et l'Iran, sont des très anciennes. Je me souviens que quand le général de Gaulle était venu, je crois que c'était en 1963, il disait qu'il était accompagné d'une délégation de l'Europe. C'était les industriels allemands qui le suivaient, et M. Pompidou était venu. Vous savez, il y a, une tradition, de lien, tradition d'aide, de l'Europe à l'Iran, et elle se continuera, nous en sommes sûrs, quelles que soient les intrigues. Parce que c'est une question de puissance. Pourquoi ? Nous sommes dans un monde qui est, sans vouloir faire de généralité, qui affronte une crise. Une crise à tout point de vue, crise morale, crise économique, crise financière, crise sanitaire, etc. Et donc, nous sommes obligés, pour survivre, d'avoir une solidarité. C'est un terme dont on abuse, mais c'est un terme qui a une signification. C'est-à-dire que si on brise une chaîne entre les pays, eh bien, c'est le désordre qui s'accroît. C'est une sorte d'entropie de désordre. Tout ceci, c'est le devoir de chacun des États étrangers de se maintenir chacun à sa place et de supprimer tous ces chantages, tous ces, ce qu'on appelait le blocus, tous ces affamements, si je puis dire, contre chacun des pays, M. Amrouni a très bien dit que, évidemment, vous avez tous ces gens qui sont des réactionnaires, peut-on dire entre guillemets, que ce soit certains États arabes, du Golfe, par exemple, qui sont en fait des États domestiques, voyez-vous, et que ce soit la tradition également anglo-saxonne, qui n'a pas été une bonne tradition, chacun le sait, dans ses relations avec l'Iran. Nous avons de grands pays qui, bien sûr, manifestent autour de l'Iran des ambitions naturelles, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit... Bon, eh bien, ces pays-là, bien sûr, ont intérêt aussi à ce qu'il y ait une relative stabilité dans les relations. Et donc, nous appelons, disons, nous, c'est pas que nous appelons de nos voeux, nous sommes sûrs que de par son passé, de par l'exemple qu'il a donné dans le passé, l'Iran pourra se maintenir et devra se maintenir. Cette conscience nationale qui n'a pas été comprise ici dans les revues de presse, vous savez, qui sont sous influence étrangère, on parle des influences israéliennes, on parle des influences américaines, c'est tout à fait vrai, notre presse n'est pas libre, disons ici, d'exprimer réellement les choses comme elles sont, d'être objective. À travers cette cérémonie, bien sûr, qui transparaît quand même, dont les Français ont connaissance, nous sommes sûrs que un des premiers résultats sera obligatoirement quand même la baisse, disons l'extinction progressive des sanctions, de la politique des sanctions dirigées contre l'Iran. Qu'il y ait des formes d'agressivité nouvelles, ça, bien sûr, nous ne pouvons pas l'empêcher. C'est le rapport avec les États impériaux, c'est tout à fait, disons, naturel. Mais qu'il y ait une modification, qu'il y ait une extinction, disons, cette politique suivie jusqu'à M. Trump, par exemple, d'étranglement de l'Iran, ceci, nous en sommes persuadés. Je crois que le sens de la cérémonie qu'il y a demain, par exemple, qu'il y a eu déjà demain, est celui-là en question. C'est-à-dire qu'il y a une page quand même qui se tourne. Elle se tourne par la force des choses, par la nécessité même de surmonter la crise mondiale, voyez-vous. C'est une nécessité, si je puis dire, pas seulement spirituelle, morale, c'est une nécessité matérielle. Et je crois que chacun en est conscient, bien sûr, commencé par l'Iran lui-même, qui a montré aussi, je dis un dernier mot, sur le plan technologique récemment, vous savez, qu'il était capable d'accomplir des prouesses, et ces prouesses ne sont pas le fruit de hasard scientifique ou technologique. Elles sont également le symptôme, disons, qu'il y a une union dans le pays, qu'il y a une coordination des efforts, et que l'Iran est digne, disons, de la réputation qu'il a toujours eue dans l'Antiquité jusqu'à nos jours.
Monsieur Amrouni, Monsieur Dortillier l'a dit que voilà, il va y avoir une importante délégation de l'Union européenne également qui va participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien qui aura lieu jeudi au Parlement. Sur ce sujet, en fait, le régime israélien, les responsables israéliens s'en sont pris en fait violemment à l'Union européenne, comme quoi, par exemple, l'Union européenne, c'est une province, si vous voulez, de l'entité israélienne qui ne doit pas, par exemple, agir indépendamment sur, en fait, cette question. Vous l'avez dit tout à l'heure également que, depuis quelques jours, il y a eu cette forte multiplication de pression contre l'Iran, contre le nouveau président iranien. Hier aussi, il y avait eu en fait des agissements suspects, qualifiés de suspects par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères dans la région du Golfe Persique et dans la mer d'Oman. De quoi, M. Amrouni, sont-ils inquiets les Israéliens, les Américains et leurs alliés?
Vous savez, le grand perdant aujourd'hui, c'est l'État sioniste. Les États-Unis cherchent à négocier, vraiment, donc il fait le bras de fer avec le nouveau président et fait le maximum de pression pour que le nouveau président commence là où la délégation iranienne s'est arrêtée, alors que le nouveau gouvernement veut renégocier tout. Et donc ça, c'est un point fort pour le président Raisi sur la négociation nucléaire avec les États-Unis. L'Union européenne, il se retrouve besoin de l'Iran dans tout ce qui est pétrole et gaz parce qu'il est sous la pression russe. Donc l'intérêt de l'Allemagne, l'intérêt de la France, c'est d'aller vers l'Iran et de trouver des compromissions entre le nouveau gouvernement et l'Union européenne, car ce nouveau gouvernement, et je reviens à la nature de ce nouveau gouvernement, car on est dans une phase historique très importante depuis 30 ans, on n'a pas eu une cohérence entre la présidence, le guide et le Parlement iranien. Aujourd'hui, on a cette cohérence politique, cette cohérence idéologique et cette cohérence révolutionnaire. C'est très important de le dire. Et donc, d'abord, il y a une attente forte à l'intérieur de l'Iran. Le peuple va sanctionner directement le nouveau gouvernement s'il se trompe. Et donc, l'attente, elle est forte, et sociale et économique. Donc, M. Raisi a besoin d'une diplomatie économique intéressante et importante vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Asie. Et donc, l'Union européenne essaie d'aller vers le nouveau gouvernement pour trouver des compromis entre l'Iran et l'Union européenne, et bien sûr, entre l'Iran et les États-Unis. Et donc, qui est perdant dans tout cet état géopolitique, c'est l'entité sioniste. Pour cette raison, l'entité sioniste a essayé depuis un mois à déstabiliser le nouveau président à l'intérieur même de l'Iran. Aujourd'hui, il le fait dans les mers, dans le golfe Persique et la mer d'Oman. Mais cette pression militaire, cette pression sécuritaire, on a vu la réponse iranienne, elle est claire, ferme et précise. Toute attaque de l'armée, de n'importe quelle armée étrangère, l'armée iranienne, les forces révolutionnaires iraniennes vont répondre d'où vient l'attaque. Donc aujourd'hui, ce nouveau président, ce nouveau gouvernement, il y a une grosse attente populaire iranienne. C'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est une diplomatie ouverte vers les voisins arabes, mais surtout vers l'Union européenne.
Monsieur Dortiguet, vous avez entendu Monsieur Amrouni, voilà, sur le plan de la politique étrangère, l'Iran, selon Monsieur Amrouni, va avoir, si vous voulez, cette interaction avec le monde extérieur, l'Union européenne, la Chine, la Russie également, de ses voisins, d'autant plus qu'en fait, les voisins ont occupé toujours une place de choix dans la politique étrangère de Téhéran, et le président Raisi entend, si vous voulez, donner, de renforcer cette priorité à l'égard des voisins dans sa politique étrangère. Et selon M. Amrouni, le perdant de tout cela, c'est le régime israélien. C'est de votre avis également?
Oui, en effet, c'est tout à fait évident. Je remercie vraiment M. Amrouni de cette précision, de cette franchise de propos. Il est le grand perdant, parce que le régime israélien, pourquoi? Pour dire simplement, ne vit pas comme un État parmi les autres. Il vit comme un État sur les autres. En particulier, il vit de pression constante sur les États-Unis. On le sait, il a également des appuis ailleurs, je ne veux pas préciser. Mais il a également, disons aussi, vis-à-vis de l'Union européenne, une attitude qui ressemble à la mouche du coche dans la fontaine, c'est-à-dire que une attitude importune, voyez-vous, et qui naturellement atteint des limites, qui agacent, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elles vont contre la nature, elles vont contre la réalité. On ne peut pas vivre avec une agitation constante, avec, disons, des scénarios de catastrophe, en étant au bord de la guerre, en agitant, par exemple, ses propres... ses propres sous-marins, vous savez, la classe Delphine, par là. Non, on ne peut pas, disons, bâtir une relation de cette sorte. Les relations entre les peuples sont des relations humaines, bien sûr, c'est des relations économiques. Elles ont toujours été le cas, vous voyez. Ce sont ce qu'on appelle des échanges nécessaires. Ces échanges doivent se continuer par la force des choses. Et je dois dire que cette stabilité qu'on a vue en Iran, bien sûr, vous avez des... vous savez, je suis souvent en Iran, je vois les difficultés qu'ont les gens, je connais les difficultés d'approvisionnement, surtout les questions de prix, les spéculations même qui ont été faites par certains malhonnêtes. Bon, tout ceci est vrai. Mais il y a, disons, une reconnaissance par ceux qui vont et par ceux qui sont à l'extérieur, qui connaissent bien de votre pays, qui connaissent bien votre pays, c'est sa capacité technique, sa capacité scientifique, qui d'ailleurs n'est pas tellement diffusée ici dans la presse, voyez-vous. Mais quand même, je connais beaucoup de gens qui vont en Iran, y compris dans la bourgeoisie parisienne, voyez-vous, des beaux quartiers, comme on dit, qui reviennent et qui témoignent de ce qu'ils voient, à tous les niveaux. Et donc, ceci, voyez-vous, transparaît à travers ces fameux efforts israéliens de contrôle de la presse, etc., d'agitation. Tout ceci, disons, fait que je crois que l'entité sioniste, ne peut pas continuer de dominer comme elle l'a fait. Elle prétend dominer elle fait des pressions, mais même à l'intérieur des États-Unis, je le vois avec la politique de M. Biden, on comprend que les Américains veulent suivre aussi et sont obligés de suivre une politique en fonction de leurs intérêts réels et non pas en fonction de celui qui se présente comme leur protégé et qui en réalité voudrait jouer au patron. Ceci est impossible. Voyez-vous, on ne peut pas continuer de cette façon à contrôler, comme le font les Israéliens, la politique internationale. Ceci, ils auront contre eux des gens qui les ont soutenus, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, ils ont atteint un seuil, disons, de tolérabilité. Ceux-ci, ils sont, si je puis dire, leurs propres ennemis. Voilà, c'est cela que je peux, et je crois qu'à l'intérieur même de l'entité sioniste, beaucoup de gens se rendent compte, bien sûr aussi, de ce déséquilibre profond. Mmh. Donc, pour revenir à l'Iran, je crois que l'Iran a intérêt, ce n'est pas un conseil que nous lui donnons, c'est une constatation que nous faisons, à élargir sa base technologique, à développer son instruction, et les fruits sont reconnus. Quant aux relations extérieures, notre propre vœu, disons, de visiteurs de l'Iran, de connaisseurs, de connaisseurs de personnes à l'Iran, c'est qu'il y ait, disons, une amélioration des relations entre elle et les peuples turcs, les peuples turciques, comme on dit.
Merci.
Cette région, je crois que c'est une donnée, d'ailleurs, qui est intérieure à l'Iran, vous savez, et c'est ce rapport avec les peuples turcs. Et je dois dire que, justement, l'intérêt de l'entité sioniste, c'est de créer des animosités. Mmh. Et là-dedans, disons, l'union est très importante, et je crois qu'elle se fera par la force des choses. Elle se fera, disons, par une nécessité de vie économique. Je reviens toujours, la technique, la matérialité, disons, est le support de l'esprit.
Monsieur Ambrouni, en fait, en Iran également, on dit que voilà, la politique doit être également, sur le plan de la politique étrangère, cette orientation vers l'Est, vers la Chine, vers la Russie, vers l'Inde, vers, si vous voulez, les BRICS, cette importante institution, vers en fait l'organisation de Shanghai. Président Ambrouni, est-ce que cela va avoir également son impact au niveau international, dans le sens, si vous voulez, du renforcement de l'alliance Iran, Chine, Russie, Inde et autres pays face, si vous voulez, à l'hégémonie américaine?
Vous savez, la force de la diplomatie iranienne et de la révolution islamique iranienne, c'est le slogan que l'imam Khomeini a lancé, paix à son âme, dès le début de la victoire de la révolution islamique, c'est ni Est ni Ouest, République islamique. Et donc, le fait de dire ni Est ni Ouest, c'est pas seulement un slogan. La République islamique d'Iran, sa géopolitique, sa stratégie, ce n'est pas d'être complètement à l'Est, ni complètement contre l'Ouest. Le peuple iranien, le gouvernement iranien n'est pas anti-occidental. Il faut le dire très très fort, le peuple iranien c'est un peuple moderne, c'est un peuple qui aime les peuples occidentaux, y compris le peuple américain, il n'y a aucun problème. Et donc ce n'est pas une anti-occidentalisation que le peuple iranien vit à l'intérieur de sa politique ou même à l'intérieur de sa culture. La culture iranienne, c'est une culture mosaïque, c'est une culture forte qui est ouverte au même temps à l'Orient et au même temps à l'Occident. C'est ça ce qui fait la force d'un Iranien. Donc cette politique qui va vers la Chine avec l'accord stratégique de 25 ans ou vers la Russie pour développer certaines relations économiques, on voit que les échanges entre la Russie et l'Iran ne sont pas très très importants, très très fortes, mais aussi le lien que la République islamique a avec ses voisins arabes, avec les Émirats arabes unis, avec aussi l'Inde, donc avec l'Union européenne. C'est très important de le redire que la politique iranienne, elle est ni à l'Est ni à l'Ouest. Et ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, en fait, il va rétablir en fait l'équilibre. Parce qu'à un moment, on a vu que les réformateurs, ils étaient trop vers l'Ouest. Et à certains moments, on avait des gouvernements plus ou moins conservateurs, ils voulaient être trop à l'Est. Donc on a besoin d'un gouvernement révolutionnaire qui voit d'abord l'intérêt de la République islamique d'Iran, mais surtout l'intérêt de son influence régionale et internationale. Aujourd'hui, l'Iran, c'est une force montante internationale. Ce n'est pas simplement une force régionale. Donc cette force internationale, il faut qu'elle ait les moyens techniques, technologiques, économiques, sociaux pour qu'elle s'assoie face à face aux États-Unis.
Monsieur Dortiguet, Monsieur Ambruni a fait allusion à un point, me semble-t-il, très très important. L'Iran n'est pas contre l'Occident, l'Iran n'est pas contre l'Europe. L'Iran l'a dit en fait à plusieurs reprises, entretient des relations avec l'ensemble du monde. Il y a une exception, c'est le régime israélien. L'Iran n'est pas contre l'Occident. L'Iran, je viens de le dire, l'Iran est contre l'hégémonie américaine.
Oui, en effet. C'est-à-dire qu'on n'entend pas l'hégémonie américaine, une certaine politique américaine, guidée par des intérêts qui ne sont pas naturellement, forcément, en faveur de l'ensemble des industries américaines et des intérêts, du développement de la société américaine. Et il y a un intermédiaire, c'est-à-dire, on revient toujours à l'entité sioniste, rapidement. Quand, en 1939, M. Ben-Gurion avait dit que dans un discours à la jeunesse que j'avais lu à la Bibliothèque nationale, la jeunesse sioniste, il avait dit « Nous servirons d'intermédiaire entre l'Europe et l'Asie ». Non, entre l'Occident et l'Asie, non. Ils ne servent pas d'intermédiaire, ils servent au contraire d'obstacle, voyez-vous, pour pouvoir justement bénéficier des tensions et, vivre à l'occasion de ces tensions. Et M. Amrouni a très bien dit aussi, je reprends, que la politique de l'imam Roméni, cette formule, qui était ni Est ni Ouest, est très juste. C'est-à-dire une politique indépendante. Je dois dire que dans tous les États, je dis ici à la radio française, à la radio langue française, de tous les États que, dans le monde que l'Iran, a eu proche de son développement, il faut compter l'Europe. On le voit dans la politique au XIXe siècle, par exemple, que ce soit les voyages faits en Occident, en Allemagne, etc., par Nasreddin Shah, il y a, un lien direct de culture. Je terminerai par cette phrase, les Européens viennent d'Asie. C'est une grande formule du philosophe allemand qui parle en français, qui écrivait en français, Leibniz au XVIIe siècle. C'est vrai qu'il y a, nous avons une racine, un lien, continu, nous, entre les Européens et les Asiatiques.
Merci.
C'est plateau d'Iran. Et je dois dire que c'est le rôle d'une radio, bien sûr, comme vous, c'est de diffuser justement cette vérité contre ceux qui ne font que répandre des brouillards de mensonges.
Merci beaucoup, Pierre Dortiguet, spécialiste français des questions internationales, d'avoir été avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Imadedine Ambruni, qui est analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
L'idéologie est la pratique des courants takfiristes. Pourquoi le Ghana n'a pas été touché par le terrorisme takfiriste? Le Ghana semble à première vue avoir été largement épargné par les attaques des terroristes takfiristes. Alors, est-ce bien le cas? Et comment le pays s'y prend-il? Alors que le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays de la sous-région ouest africaine sont régulièrement la cible d'attaques terroristes, le Ghana semble échapper à ces attaques. Quand on regarde les chiffres, le risque d'attaque terroriste au Ghana peut être qualifié de presque insignifiant. Ces 5 dernières années, le pays a enregistré 2 incidents terroristes au cours desquels 3 personnes ont été blessées. Une situation sécuritaire satisfaisante, donc par rapport à ce qui se passe notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger ou même en Côte d'Ivoire voisine. Pour Emmanuel Bombandé, expert en résolution des conflits et du développement, le Ghana
n'a pas forcément été épargné par la terreur. Mais il est vrai qu'il n'y a pas eu d'attaque terroriste de grande ampleur en tant que telle. Précisément parce que la population le reconnaît, le Ghana ne peut pas être complaisant. Le Ghana n'est pas immunisé contre les attaques terroristes. Mais un élément important qui a aidé jusqu'à présent est l'engagement très actif des citoyens qui s'expriment sur toutes les questions qui peuvent devenir le terrain propice aux activités et aux attaques terroristes. Quel a été le rôle des médias? Au nombre des voix critiques dans le pays, il y a les médias qui interpellent sans cesse l'État sur ses responsabilités. Ils jouent un rôle très critique et sont même souvent pris à partie par certains fonctionnaires. Ces médias continuent d'insister sur leur place dans un engagement actif et cela a été utile. Ils ont la capacité d'amener l'État à reconnaître que partout sur le territoire national, nous devons avoir la présence de l'État, non pas seulement en termes de présence militaire, mais aussi en termes de bonne gouvernance, en commençant cette bonne gouvernance au plan local, observe Emmanuel Bombanté. Quelle a été la position de l'armée au Ghana? Le Ghana a une armée bien préparée. Autre raison pour laquelle le Ghana est peu confronté aux attaques terroristes, c'est la bonne préparation de son armée, selon Kwesi Anine, analyste en matière de sécurité. Les terroristes n'ont pas délibérément évité d'attaquer le Ghana, mais le pays dispose d'une armée expérimentée dans le maintien de la paix, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières. Une armée bien entraînée est capable de donner une bonne réplique à toute éventuelle attaque. En outre, les communautés frontalières ont été sensibilisées sur l'importance de la sécurité et des dangers potentiels qui surviendront au cas où elles ne signaleront pas toute activité suspecte, estime l'expert. Et enfin, la tolérance religieuse. Le Ghana coopère également dans le domaine de renseignement avec ses voisins francophones, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Togo, à travers l'initiative d'ACRA, un mécanisme destiné à renforcer la coopération. Autre explication, la tolérance religieuse. La bonne entente entre les chefs religieux de différentes communautés sont autant d'atouts sur lesquels le pays peut s'appuyer, selon plusieurs analystes. L'opération Nasr al-Mobin à Al-Baïda, au Yémen, a été un autre coup fatal aux ennemis du peuple yéménite. Au cours de l'opération Nasr al-Mobin, l'armée et les comités populaires du mouvement Ansar Allah ont livré à une bataille intense contre les terroristes d'Al-Qaïda, de Daesh et des mercenaires à la solde de la coalition d'agression saoudienne dans la province d'Al-Baïda, si bien qu'ils ont enregistré d'importants acquis. Ils ont libéré de nouvelles zones, saisi une bonne quantité d'armes et de munitions et détruit les équipements militaires de l'ennemi. Un total de 500 km² a été libéré en deux phases d'opération dans la province d'Al-Baïda.
510 terroristes ont été tués et 760 autres ont été blessés lors de deux phases de l'opération. Des dizaines de véhicules militaires des takfiristes ont été détruits et de grandes quantités d'armes des mercenaires et des takfiris ont été saisies par les combattants yéménites. 13 opérations de missiles Badr et de Saïr et 19 opérations de drones ont été menées contre les positions de Daesh et d'Al-Qaïda. Les responsables locaux et les habitants, notamment les tribus d'Al-Baïda, ayant mené une coopération étroite avec les combattants de la résistance yéménite, ont joué un rôle important dans le succès de cette opération. La coalition saoudienne a fourni aux terroristes toutes sortes d'armes lourdes et semi-lourdes et de munitions, et avait un contrôle total sur leur transfert. Les avions de chasse saoudiens ont également mené 67 frappes aériennes contre les forces armées et les comités populaires d'Ansarallah. Et les preuves de tous ces soutiens sont disponibles et documentées. Al-Baïda est souvent oubliée. C'est une vaste région du Yémen où on ne voit pas grand-chose d'autre que la pauvreté et l'impuissance qui se sont aggravées pendant la guerre. Il reçoit généralement peu d'attention parmi les observateurs yéménites, sauf lorsqu'il s'agit d'Al-Qaïda et de Daesh. Récemment cependant, Al-Baïda est devenue une arène centrale de la bataille entre Ansarallah et les mercenaires affiliés au régime de Riyad. Al-Baïda borde 8 autres gouvernorats, Chebwa, Al-Dali, Abyan et Lahij au sud, Ma'rib, Sana, Damar et Ib au nord. Son emplacement stratégique, donnant accès à de nombreuses régions du pays, rend Al-Baïda décisif dans le conflit actuel entre Ansarallah et les mercenaires pro-Mansour Hadi. Les camps d'Al-Qaïda et de Daesh sont présents dans des zones isolées d'Al-Baïda, en particulier dans les chaînes montagneuses entre Al-Baïda et les gouvernorats d'Abyan et de Chebwa. Al-Qaïda a également une présence limitée dans le district de Wad Rabi. Certains membres d'Al-Qaïda appartiennent à des tribus, ce qui a aidé le groupe à opérer au sein du tissu social du gouvernorat. Pendant ce temps, Daesh est considéré comme un étranger et les relations du groupe avec les tribus ont connu des tensions extrêmes et régulières. Il est à noter que les combattants d'Ansarallah, après être entrés à Sana'a en septembre 2014, ont marché vers Al-Baïda pour s'en emparer avant de se diriger vers Aden, Taiz, Hudaïda ou tout autre gouvernorat. La priorité militaire d'Ansarallah à Al-Baïda a révélé l'importance stratégique de ce gouvernorat ainsi que la conscience du mouvement de la résistance yéménite, de l'histoire de la rébellion d'Al-Baïda contre le centre et de l'animosité persistante. Par conséquent, soumettre Al-Baïda a été depuis toujours une priorité. Al-Baïda est la clé de la protection de Ma'rib. Des groupes takfiristes ont tenté d'atteindre certaines zones de la province d'Al-Baïda et pendant ce temps, la coalition d'agression saoudienne a équipé les groupes takfiristes et a mobilisé ses troupes pour soutenir ces groupes. Les forces fidèles au président démissionnaire Mansour Hadi, allié de Riyad, et leurs tireurs ont lancé une opération militaire appelée Al-Najm al-Tarib dans la province centrale du Yémen, Al-Baïda, le 2 juillet. Mais l'armée et les comités populaires d'Ansar Allah ont réussi à reprendre les parties importantes du front lors d'une contre-attaque contre la coalition saoudienne dans cette province. Résultat pour l'armée américaine. Retour à la case de départ à Ma'arib, recul à Al-Baïda, perte stratégique à Chebwa, bastion de Riyad au sud du Yémen et autres provinces pétrolières du pays.